Bah écoutez, deux légendes vivantes du rock à vrai, donc j'ai pas la peine de les présenter, je pense que tout le monde les connaît. Marc Minnelli, chanteur, Yann Farty, producteur, voilà, tu vas te présenter toi-même. Et Yann, je te laisse la parole.
Je me présente, Yann Farty, bon certains me connaissent déjà, j'ai dans les années 80 fait un label assez un peu connu au Havre qui s'appelait Invitation Suicide, mais disons la musique pour moi ça a commencé dans les années 70 où déjà à l'époque j'avais des goûts assez éclectiques qui allaient de, j'écoutais beaucoup de musique expérimentale, de krautrock, mais en à côté j'écoutais aussi les Stooges, le MC5, les Deviants, des choses comme ça qui à l'époque étaient le Velvet aussi, n'étaient pas nécessairement des musiques très très appréciées et même plutôt décrié, on me prenait un peu pour un fou d'écouter ce genre de choses. Disons, et j'ai continué à écouter ce genre de musique jusqu'aux années 74-75, et à cette époque-là, j'ai rencontré Jean-Pierre Turmel, qui est connu aussi dans la région pour Sordide Sentimental. Donc moi, j'étais assez jeune, je l'ai rencontré très bizarrement à travers une émission de télé. Et donc, grâce à lui, j'ai découvert le psychédélique américain et les groupes garage américains des années 60-70. Là, j'ai commencé à sérieusement collectionner ce genre de musique, toujours en écoutant toujours de la musique expérimentale et des musiques étranges en à côté. Je me suis commencé à m'intéresser à toute la scène américaine. Et donc, dans les années 75, mes parents, pour des raisons professionnelles, sont partis au Havre. Donc, j'ai découvert la ville du Havre. J'ai tout de suite adoré. Je sais que les gens détestaient la ville du Havre. Moi, j'adorais l'architecture. Je trouvais, j'étais fasciné par la ville. Bon, qui était quand même, c'est vrai, comme un interlocuteur le disait précédemment, sale, cradingue, glaciale, et aussi assez dangereuse. On oublie ce genre de détails. C'était quand même une ville pas très rassurante. Voilà. Donc, je suis arrivé au Havre comme ça. Par rapport à la musique, dans les années 75-76, ce qui a été un peu effleuré, c'est qu'il y avait effectivement la musique pop était devenue particulièrement ennuyeuse. On en a vaguement parlé, les groupes genre Yes, Genesis et autres occupaient le devant de la scène. Moi, ma bête noire, c'était un groupe qui s'appelait Mahavishnu Orchestra. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. John McLaughlin, c'était insupportable, les solos de guitare et autres. Je détestais. Et dans les années 75-76, on commençait à apparaître des groupes qui retourner un peu vers le rock, les Eddie and the Hot Rods, Kilburn and the Rhodes en Angleterre. Il y avait la scène américaine qui commençait à apparaître aussi, qui était assez intéressante avec tout ce qui se passait à New York. Les premières choses qui nous arrivaient des États-Unis, aussi le premier album de Patti Smith, qui à l'époque a été quand même un album assez important au niveau musical. Et donc, il y avait déjà un tournant musical qui était en train de se passer. Il y a des choses qui s'installaient. Il y avait des groupes un peu plus obscurs aussi aux États-Unis comme The Hills ou Rockets from the Tombs, qui étaient les ancêtres de Père Ubu, mais qui étaient déjà des choses qu'on a découvert par la suite, mais qui commençaient à créer un autre son. Et donc en Angleterre, il y avait aussi Eddie and the Hot Rods, que j'aimais beaucoup à l'époque. Et donc, comme j'étais au Havre et que je m'intéressais au vinyle, au disque, j'achetais pas mal de disques aux États-Unis et je faisais des échanges avec des Américains, des disquaires. J'étais abonné à un fanzine, ça existait déjà, effectivement, d'une cinquantaine de pages où il n'y avait que des listes de vinyles à vendre et à échanger. Donc, en arrivant au Havre, j'ai effectivement découvert qu'il y avait des ferries. Et que les ferries permettaient d'aller à Londres facilement. Donc, et à Londres, il y avait des disquaires. Donc, ça permettait d'aller acheter des disques. Donc, je me suis retrouvé à y aller plusieurs fois. Et un beau jour de 76, en été, du moins pour moi, c'est l'été. Donc, je pense que j'ai retrouvé à peu près la date. J'étais à Londres pour, je pense, 2 jours. C'est à peu près le temps que j'y passais. Et j'étais chez un disquaire chez qui j'avais acheté des disques et qui m'a dit « Vu ce que tu m'achètes, je te conseille d'aller voir ce concert-là ce soir ». Il me donne un flyer quelconque, je regarde, je me dis ouais, j'ai rien à faire, pourquoi j'irais pas. Il avait l'air, il était sympa, ça me paraissait sympa d'y aller. Et donc je me retrouve dans un endroit assez paumé, je mets un temps infini pour y arriver, une salle qui ressemble pas du tout à une salle de concert, j'arrive, il y a des concerts qui étaient déjà commencés. Drôle d'ambiance, pas nécessairement beaucoup de monde, mais des drôles de personnes dans la salle. Et en fait, j'étais à un concert des Sex Pistols. Et donc, j'ai vu les Sex Pistols sans le faire exprès. Je le dis bien sans le faire exprès. Donc, c'est quelque chose d'assez étonnant. Parce que je ne suis pas allé voir les Sex Pistols j'ai vu les Sex Pistols malgré moi, en fait. Et là, ça a été véritablement un choc. C'était surtout Johnny Rotten. Il occupait la scène. C'était une évidence. Les autres musiciens, on les regardait à peine, mais c'était Johnny Rotten. On était totalement dans le contraire de ce qui se faisait habituellement en concert. C'est-à-dire, c'était complètement foutraque. Foutait du public. Il avait cette espèce de côté qu'il a toujours eu teigneux. Hargneux, mais en même temps, il y avait quelque chose de pétillant. En plus, il y avait le look qu'il arborait, je veux dire. Moi, à l'époque, je m'intéressais déjà à toutes des choses comme le dandysme et autres. Et pour moi, Johnny Rotten, dès la première fois où je l'ai vu, c'était un dandy. C'était évident, il y avait quelque chose de l'ordre du dandysme. Et les gens qui étaient dans la salle, qu'après on connaîtra sous le nom de Bromley Contingent, étaient aussi assez dandy, je veux dire, c'était évident. Et moi, déjà à l'époque, j'avais un look qui n'était pas totalement dans l'air du temps. J'étais habillé tout en noir, gants noirs, lunettes noires, les cheveux déjà assez courts. Et donc, ça a fait un déclic évident, je veux dire, je me suis dit, là, il se passe quelque chose. C'était clairement la fin d'une période musicale, ça fermait quelque chose et ça ouvrait une porte, parce que ça allait bien plus loin, effectivement, que les groupes pop rock et autres. Là, il y avait quelque chose, il y avait l'attitude, il y avait ce côté, on joue, mais on s'en fout, je veux dire, on s'en fout du public, on s'en moque. Il y avait quelque chose d'éminemment jubilatoire, je veux dire, ça me paraît évident, c'est le mot qui me vient à l'esprit. Il y avait quelque chose de jubilatoire, c'est-à-dire que c'était pas... C'était pas sérieux. Non, c'était pas sérieux. Il y avait quelque chose de l'ordre du ludique. Je sais pas comment le dire. C'est-à-dire qu'on jouait à être teigneux. Donc, on jouait à être méchant. C'était pas du tout. Ça ne l'était pas du tout. Je veux dire, en fait, tout était dans l'ordre d'une espèce de parodie. Quelque chose mais en même temps fascinant, parce que justement ça rompait les groupes quand ils faisaient des concerts, les groupes qu'on avait l'habitude de voir, c'était sérieux, appliqué, fallait bien réussir les concerts, fallait que ça se passe bien. Là non, c'était pas du tout le problème, je veux dire, c'était comme on pouvait. Et donc je suis rentré en France, donc j'avais déjà les cheveux assez courts, là je les ai eu encore plus courts. J'ai commencé maintenant je les ai plus du tout, donc vous remarquerez l'évolution quand même au fil des années. Et donc je suis rentré au Havre en me disant là il se passe quelque chose, et j'ai commencé à m'intéresser, à essayer de trouver des infos qui étaient rarissimes. Signalé par le précédent intervenant, qui étaient rarissimes sur le punk, on en parlait très peu. La source principale, c'était les journaux anglais, et j'ai commencé à m'habiller en punk. Parce que ce qui était bien à l'époque, les punks, il n'y avait pas d'uniforme déterminé, c'était effectivement on fait comme on peut, on fait comme on veut. Disons, je m'habillais, il faut être très honnête, à l'époque, je passais la moitié du temps, mon temps à Rouen, la moitié du temps au Havre. Donc, des villes, comme ça a été rappelé aussi, où il y avait déjà une ambiance très rock. Bon, le Havre, il y avait Little Bob et tout ça, qui était bien dans l'air du temps par rapport à la musique et ce qui se passait. Et à Rouen, il y avait les Dogs, c'était des villes, il y avait les disquaires dont on a parlé, qui étaient effectivement, dans mon esprit, des disquaires militants, c'est-à-dire peut-être que... Melody Massacre a été un peu plus psychédélique, Crazy Little Freak un peu plus rock. Je fais une petite différence, mais voilà, il y avait une petite différence comme ça, mais c'était des disquaires militants. Donc j'allais de l'un à l'autre. Donc à Rouen, je me baladais en punk avec. J'avais trouvé quelques acolytes qui avaient accroché. Et quand je dis en punk, c'était avec la Tiraille, mais donc je parle de fin 76, début 77. On passait pour des zombies, c'était faible. Je veux dire, c'était. Les gens ne comprenaient pas. Il y avait deux attitudes. Les gens soit avaient peur. Ceux qui connaissent sûrement, vous voyez la rue du Gros Horloge. Donc on prenait la rue du Gros Horloge en entier. Et on avançait avec un air teigneux, habillé avec les épingles à nourrice, des vêtements tagués, déchirés. Moi, j'arborais des brassards FFI, des choses comme ça, ce genre de choses. Massacrons les bébés phoques. Bon, c'était... Donc, les gens, soit avaient peur, donc ils s'écartaient, soit ils ne comprenaient pas, ils faisaient signe à leurs enfants de regarder comme si on était une attraction locale. C'était complètement décalé. Par contre, quand je revenais au Havre, je vais le reconnaître, là, j'enlevais la tiraille, parce que je ne tenais pas à avoir d'ennui, parce que le Havre est une ville quand même assez... un peu dangereuse quand même à l'époque, donc je restais un peu plus sobre, je n'arborais pas ce genre de tenue, donc le changement se faisait dans le train. je le reconnais, mais c'était... Il y a quelqu'un hier au premier rang qui m'a dit « part-time punks ». C'était exactement ça. Mais, et donc, là, j'ai suivi pendant la première année le mouvement punk, vraiment sérieusement. Je veux dire, j'ai vu les groupes émerger, les disques apparaître. Parce qu'il faut bien se dire qu'au début, il y avait très peu de disques, en fait. C'était... On ne savait pas ce que c'était le punk. Moi, j'avais vu les Sex Pistols. Bon, je suivais à peu près. Après, il y a d'autres groupes. Il y a les Damned qui ont sorti leur premier album dans les, je crois, milieu 76. Il y a des choses qui sont apparues, des groupes plus mineurs. Là, c'était la chasse aux 45 tours, aux informations. Et c'était un petit peu éclectique, en fait, le punk. On mettait plein de choses sous le nom punk. D'ailleurs, une anecdote au passage, faut se rappeler, j'ai relu pas mal de choses là, sur le punk. Et Malcolm McLaren, le manager des Sex Pistols, au début tenait à ce qu'on parle de New Wave. Il refusait le mot punk. Il a longtemps refusé le mot punk. Et en fait, il a pris le mot punk uniquement quand le groupe The Jam s'est fait appeler New Wave. Donc là, il a décrété qu'il s'appellerait punk. Ce que je voulais dire aussi par rapport à ces débuts du punk, c'est... Bon, quand on lit les livres qui ont été écrits sur le punk, on voit les références de McLaren aux situationnistes et autres. Moi, j'ai, la première vague punk, j'avais aucun sentiment de substrat politique. Je veux dire, encore moins situationniste. Parce que déjà, à l'époque, qui connaissait les situationnistes ? Il n'y avait pas grand monde. À l'époque, je connaissais un peu l'international situationniste. Mais peu de gens, je veux dire... Dans les gens que je connaissais, qui s'intéressaient au punk, qui, au cours de cette année 76-77, personne ne faisait référence aux situationnistes. Quand plus tard j'ai lu ces ouvrages avec la référence de McLaren aux situationnistes, je suis un peu tombé des nues. Je veux dire, la seule chose peut-être que McLaren avait retenu des situationnistes, c'est qu'on pouvait vendre la contre-culture ou la révolte. Parce que son but, quand même, dans le contrat des Sex Pistols, ils avaient l'obligation de porter les vêtements de la boutique. Il faut le rappeler, quand même. Le but de McLaren, c'était quand même de vendre ses vêtements. Et de même, la même chose pour Bernard Rhodes, qui était le manager de Clash, qui avait la boutique Boy, et qui avait aussi l'obsession de vendre que les membres de Clash portent ses vêtements. Donc c'est peut-être la seule chose qui peut être situationniste, mais à contresens ou à contrario. Alors, en tout cas, il y avait... Pour moi, aucune ambiance, aucun relent politique. C'était juste provocation, ne pas être dans l'air du temps, parce que c'est vrai qu'à l'époque, il faut quand même se rappeler que c'était les Baba Cool, les Pat Def, les cheveux longs, Peace and Love, non, on va être cool. Ben non, on jouait à être méchant, parce que c'est bien ça. Il faut quand même bien le dire. Pour moi, c'était on jouait à être méchant, je veux dire... Même, si on se rappelle bien, les Sex Pistols, c'est plutôt eux que... Je crois qu'il y a eu plusieurs blessés dans le groupe, quand ils se sont fait attaquer dans les rues de Londres. C'est pas eux qui blessaient les autres. Donc, on jouait à être méchant. C'était pas du tout... En tout cas, moi, je jouais à être méchant. Les gens que je connaissais, on avait l'air teigneux, on souriait pas. On se forçait pas. Non, voilà ce que dit Arnaud au premier. On se forçait pas. C'était on est là pour déranger, pour montrer que, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la fin d'une époque, c'est la fin d'un monde et on passe à autre chose. Je pense que c'était aussi une espèce de rage contenue parce que c'est vrai que ces époques un peu molles étaient trop molles et on avait envie de revenir à quelque chose peut-être un peu plus, avec un peu plus d'énergie, un peu plus de rage, un peu plus de vigueur, et donc ça allait bien, je veux dire, mais ça n'avait rien à voir, en fait, avec ce qui a été la deuxième vague punk à partir de 78 avec Crass, qui là, à partir de ce moment-là, le mouvement devient réellement politique, à mon avis, avec Crass, alors que la première vague, il y a des groupes, parce qu'on parle souvent des Sex Pistols ou de Clash, mais il y a dans la multitude des groupes punk à l'époque, on n'y voit aucune lecture politique. Quand on prend Johnny Mopet, ils ont fait un fabuleux album, X-Respect, les Adverts, tous ces groupes-là, c'était aux antipodes de la politique. Mais par contre, au niveau musical, ça a été une vraie révolution. Parce qu'il y a eu une déferlante de disques qui est arrivée. Et c'est pareil, à l'époque, ce que je dis aussi, on ne savait pas trop ce qu'était punk. C'est-à-dire qu'on mettait... dans le punk, tout ce qui était différent de ce qui s'était fait avant. Il y a quelqu'un, tout à l'heure, on a vu la couverture du magazine Sniffing Glue, qui était un des premiers fanzines anglais fait par Marc Perry. Dès 76, je crois. Je pense qu'il a commencé en 76, Marc Perry, à faire Sniffing Glue. Et Marc Perry a déclaré dans une interview que pour lui, le meilleur groupe punk, c'était Strobing Gristle. Donc, on est très loin de la notion de punk. À l'époque, c'est vrai, on pouvait considérer Strobing Gristle comme punk, mais je veux dire, tout pouvait être considéré comme punk à partir du moment où on était en opposition avec ce qui se faisait avant, où il y avait cette espèce de manière de chanter, cette espèce de effectivement, cette manière de chanter avec cette espèce de morgue, on pourrait dire ça. Pareil, tout à l'heure, on parlait justement de la manière de chanter des punks. Il y avait cette espèce de morgue dont toutes les musiques pouvaient être punk. Il n'y avait pas de règles. Et c'est ce qui était intéressant, en fait, je pense, dans la première vague punk, c'est l'absence de règles. C'est-à-dire que, justement, I wanna be an anarchist, c'est ça aussi, c'est une certaine mesure. Bon, je sais que ça énerve Arnaud, que je vois au premier plan. Il y a une espèce d'absence de règles. De règles. Et donc, on fait ce qu'on veut, mais on le fait, et ça, c'était vraiment la marque de l'époque, rapidement, avec les moyens qu'on a. Le but, c'était l'urgence. L'urgence, donc, on ne cherchait pas à enregistrer bien, aller dans un beau studio. On faisait les choses dans l'urgence, on sortait des disques dans l'urgence. Tout se faisait dans l'urgence. Et ça, c'était quelque chose d'extrêmement novateur au niveau musical. C'est ce qui m'a vraiment marqué à l'époque. Bon, et je pense que pour moi, les punks, ça s'arrête fin 77, après la séparation des Sex Pistols. Je veux dire, ça me paraît évident que la première vague punk s'arrête à ce niveau-là. Et je reviens aussi sur cette notion de dandisme qui m'est chère, parce que je pense que ça, c'est quelque chose qui est peu mis en évidence. Pour moi, les punks, la première génération de punks, étaient vraiment des dandys, avec ce que comprend la notion de dandy. Le dandy, c'est aussi quelqu'un qui se met en rupture. C'est quelqu'un qui s'éloigne des autres et qui aussi concentre vers lui l'attention des autres. C'est une rupture, mais qui est très calculée. Et je pense que la première vague punk avait vraiment cet aspect dandy, l'aspect vestimentaire, mais dans l'attitude. L'attitude de cette manière de s'imposer, de prendre toute la place. C'est-à-dire que, je veux dire, c'était d'où cette image parfois de violence, de non-respect des conventions, mais comme certains dandys célèbres du 19e siècle ou avant ont pu faire. Je veux dire, Robert Montesquieu avait l'habitude de hurler dans les salles pour qu'on l'entende, pour couvrir les conversations de tout le monde. Je veux dire, c'est simple. Et aussi, par rapport au dandysme, j'ai retrouvé, en cherchant un petit peu, que dans les années 1820, il y avait des dandys anglais qui, pour se faire... leur marque de fabrique, on dirait, c'était de se faire faire des costumes somptueux, très chers, de les faire râper et élimer par leurs serviteurs et de les porter usés et détruits. C'est un raccourci assez rapide, mais je le trouve assez intéressant. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ma vision aussi, c'est l'histoire du mythe, c'est ça aussi, c'est comme ça que je le ressens. Mais aujourd'hui, on a un regard sur ces premières années qui est parfois un petit peu déformé avec le côté politique, justement, et je pense qu'il n'était absolument pas présent. C'était vraiment un refus du monde. Et ce qu'on oublie aussi, c'est, ça choque tout le temps qu'on parle de No Future. C'est, la chanson, ce n'est pas No Future. C'est No Future in England's Dreaming. C'est pas d'avenir dans le rêve anglais, plus ou moins. Donc, ce n'est pas la même chose. Pardon ? For you and me, voilà, exactement. Arnaud continue. C'est pas exactement la même chose. No future, c'est pas d'avenir. Et là, no future in English dreaming, for you and me, c'est autre chose. Et ça, je pense qu'il faut faire attention à ce genre de détails, parce que ça ne dit pas la même chose. Et je pense que le punk a souvent, trop souvent été réduit à une schématisation à ce niveau-là. Et donc, pour revenir au Havre et à Rouen, parce que j'étais sur les deux villes, donc ça m'est assez difficile de séparer les deux, c'est clair que ces deux villes ont accueilli le punk d'une manière naturelle, parce qu'il y avait déjà, Il y avait déjà une scène rock qui était très établie. Il y avait déjà tout un univers. Et c'est vrai qu'en recherchant à nouveau, je réalise que dans la même semaine, donc ça doit être en 70, c'est 77 les Ramones. Avec le 77, le samedi, il y a les Ramones au Havre, et le mercredi, il y a Clash à Rouen, avec Subway Sect en première partie. Subway Sect qui est un groupe qui a fait un 45 tours fabuleux que je conseille à tout le monde d'écouter, avec un morceau qui s'appelle Everyone is a Prostitute, qui est un morceau fabuleux. Et donc, c'est comme assez fascinant de réaliser que dans la même semaine, des acteurs majeurs de la scène punk, en 77, ont joué dans les deux villes. Donc, je pense qu'il y a... Oui, il y a eu des tensions entre les deux villes, mais je pense qu'il y avait quand même une vraie dynamique entre les deux villes. Je veux dire, je sais pas comment l'expliquer. Peut-être une rivalité, mais une rivalité au sens positif. C'est-à-dire qu'il se passait des choses des deux côtés et les concerts se répondaient un peu parce qu'à Rouen, il y avait certainement moins de salles. C'était plus compliqué, mais il y a quand même eu des choses intéressantes. Je veux dire, je pense que la Normandie a été quand même une bonne tête de pont pour le punk. Il y a eu quand même beaucoup de concerts qui ont eu lieu. Et par la suite, ça a continué pendant des années. Il y a eu nombreux groupes qui sont venus dans ces deux villes. Et je pense que c'est... Comment dire ? C'est pas un hasard. C'est parce que ces deux villes, je veux dire... avait déjà quelque chose qui était prêt à accueillir le Havre avec tout son passif ouvrier, l'architecture, le refus de la ville et autres. Mais Rouen, il y avait aussi tout un passif, il y avait des choses aussi qui étaient pas... On a toujours l'image de Rouen, la ville bourgeoise par rapport au Havre, mais c'était pas absolument vrai. faut quand même... Oui, mais les labels, je les ai faits plus tardivement, je les ai faits dans les années 80. Donc au Havre. Non, mais pour moi, faire un label au Havre, c'était évident. C'est-à-dire que j'ai fait l'invitation au suicide au Havre. C'était pas un hasard. Je veux dire, il y avait une corrélation entre la ville et le nom du label. Bon, label qui a été à la fois cold, gothique, mais aussi avec des groupes plus presque punk comme les Provisoires ou No Train, des choses comme ça. Je veux dire, mais c'était logique de faire un label à ce moment-là et la dureté de la ville, pour moi, le Havre était encore plus que punk ou que rock, c'était une ville cold. C'était évident. C'était par excellence, je veux dire. Il y a des journalistes parisiens qui venaient m'interviewer à l'époque, et je leur faisais visiter la ville, et ils étaient fascinés par l'ambiance de la ville, qui était. Bah, c'était quelque chose de complètement différent de ce qu'on avait l'habitude, et à l'époque, les gens n'aimaient pas leur ville. Les Havrais n'aimaient pas leur ville. La ville n'était pas connue. Moi, je la trouvais fabuleuse. Je veux dire, je trouvais que c'était... D'ailleurs, je regrette ce qui est devenu le Havre aujourd'hui. Il y a trop d'arbres. Non, mais moi, j'aimais bien le boulevard François 1er, sans un arbre, rien. Espèce de perspective glaciale, avec le vent, l'hiver qui s'engouffrait dedans. Moi, je serais pour l'élimination des arbres au Havre. Allons jusqu'au bout, reconstruisons Perret et éliminons... D'ailleurs, il ne voulait pas d'arbres, si je me rappelle bien. Il était contre les arbres. Moi, je pense qu'on devrait supprimer les arbres. Je suis resté un petit peu extrémiste, hein, je vous rassure. Mais je le pense sérieusement, je trouve que c'est un gâchis. Oui, franchement, je trouve que c'est un gâchis. Je trouvais que la ville, à l'époque, était l'endroit idéal pour faire un label comme j'ai fait. Et l'invitation au suicide, je vous laisse penser aussi. Il y a des journalistes italiens qui avaient fait tout un article sur les deux termes, l'invitation et suicide. Bon, je pourrais le transmettre parce que c'était assez intéressant leur étude. Mais je pense que ça allait bien avec le Havre parce que le Havre avait bien cette tendance, j'allais presque dire suicidaire, quoi. Je veux dire au sens presque romantique du terme. Ça va lui plaire. Non, c'est à quelqu'un d'autre que ça va plaire. Non, ça ne lui plaît pas. Parce que je ne parle pas assez de politique. Je vois Arnaud devant qui... Mais c'est vrai aussi...
Ça a vraiment changé. Est-ce que le Havre est beaucoup plus gay qu'il y a 30 ans aujourd'hui ?
Un petit peu plus quand même dans l'apparence. Dans l'apparence, un petit peu plus. Il y a 30 ans, 40 ans, le Havre, c'était quand on arrive... Moi, je sais que j'avais des gens qui arrivaient à la gare, il y a 30 ans. c'était quand même, ils avaient l'impression de faire un saut dans le temps, je veux dire, de se retrouver dans les années 30-50. On arrivait, moi j'habitais au bas du cours de la République en plus, on arrivait, on avait le roi de la frite, le Habana Club, les boîtes à striptease, les mauvais garçons, la place d'Anton où la nuit il y avait des prostituées et autres. Je veux dire, c'était un choc terrifiant, je veux dire, les gens avaient réellement peur, je veux dire, c'était... Faut remettre l'ambiance. C'était comme un port. Il y avait pas d'université à l'époque. C'était une ville qui était très dure, quoi. Je veux dire, c'était aride. Bon, et c'est vrai que j'ai peut-être fait un label un peu aride aussi, mais par certains côtés. Mais je pense que cette ville, c'est logique qu'il y ait eu du rock dans cette ville. Ça me paraît évident, je veux dire. Et ça va avec, c'est mon point de vue. Je pense que les conditions matérielles influent aussi sur les créations, je veux dire. Ah oui, ça intéresse. Ah bah, à l'époque, créer un label dans les années 80, c'était la croix à la bannière. D'abord, moi, personne voulait de moi. C'est-à-dire que la chambre de commerce voulait pas que je sois label, parce qu'il disait que ça n'existait pas. Donc, je me suis retrouvé à la chambre des métiers. C'est quand même assez fabuleux. Je faisais comme artisan. C'était très compliqué, ça n'existait pas, les comptables ne comprenaient rien à rien, les disques qu'on avait en stock n'existaient pas, d'ailleurs c'est toujours le cas pour la production culturelle aujourd'hui, mais si vous produisez des œuvres, ça ne vaut rien, c'est ça, la valeur du papier. Donc à l'époque, les disques avaient la valeur de la fabrication, donc c'était assez difficile. Par contre, ce qui existait, et ça c'est une des conséquences du punk, c'est tout le milieu... tout ce qui s'était créé avec comme New Rose à Paris, les distributeurs, Roof Trade en Angleterre, il y avait tout un réseau underground pour pouvoir exister. C'est-à-dire que on pouvait vendre très bien les disques et tout, mais au niveau légal, quasiment, on n'avait pas d'existence. On n'était rien. Ça n'existait pas. C'était non reconnu. Les intervenants culturels ne voyaient même pas, on n'existait pas, je veux dire, on n'existait nulle part. On s'est retrouvé, c'était une espèce d'état de néant, je veux dire, et ça a duré quand même pas mal d'années. Aujourd'hui, je me suis un petit peu éloigné de la production musicale, je ne sais pas ce que c'en est maintenant, mais c'est resté comme ça pendant très très longtemps en France, mais dans les années 80, c'était assez difficile en fait de faire des labels. C'était facile de le faire, c'était facile de produire des groupes, de distribuer et autres, mais d'aller parler à un banquier en s'appelant l'invitation au suicide, en produisant des groupes qui s'appelaient Christian Def, je peux vous dire que c'était plus un fossé là, c'était le chemin des dames. Hein.
Yann, j'avais dit que je serais dur pour le temps, parce que vraiment, à Paris, avoir le temps. Voilà, merci beaucoup pour l'intervention.
Je vais passer la parole à Marc.